pas mon schiste.
Paul Reynard.
Thierry Gauthier. Bonjour Paul, alors on se retrouve comme tous les 15 jours pour voilà. faire un point sur le gaz de schiste, mais bien sûr de façon plus large sur tout ce qui est gisements fossiles finalement.
Voilà, tous les risques de pollution des gisements fossiles.
Aujourd'hui on va beaucoup parler d'actualité parce qu'il y a beaucoup d'éléments finalement autour du sujet hein, qui sont importants. On va commencer finalement par un schéma d'aménagement de la gestion de l'eau qui se met en place sur toute la France, alors plus exactement qui se met en place bassin versant par bassin versant. Alors voilà, nous on est concerné par le bassin versant de l'Ardèche.
Exactement.
Pour ce qui est 0,7.
Voilà. Bassin versant de l'Ardèche qui se prolonge sur le Gard, sur le Vaucluse aussi. Voilà.
Alors ce schéma directeur, il est voulu, j'imagine, au départ par l'État.
Il est voulu par l'État, par le ministère de l'Environnement. Oui. Voilà. Donc le SASH, c'est un document de. Je vais vous lire exactement la définition, quoi, pour être sûr de pas se tromper. Le SASH, donc, c'est un document de planification de la politique de l'eau sur 10 à 15 ans. Donc il a une portée réglementaire, opposable aux personnes physiques, aux administrations, etc. Mais sa valeur est inférieure aux lois et décrets. C'est-à-dire qu'il ne peut pas modifier des règlements fixés par décret. Et par contre, il est supérieur aux arrêtés préfectoraux et aux délibérations des collectivités locales.
C'est-à-dire des communautés de communes. Ah oui, donc il a quand même une vertu supérieure.
Voilà, supérieure aux communes et aux communautés de communes, supérieure aux arrêtés préfectoraux, mais... Par contre, il y a plus fort que lui.
Alors ce qui est étonnant, voilà. C'est qu'on a vu dans une émission précédente que l'eau est au cœur du problème de l'exploitation des schistes, finalement, des gaz de schiste et des pétroles qui vont avec, bien sûr. Et donc on voit que ce SAGE, hein, ce schéma d'aménagement des gestions de l'eau, peut être un outil permettant finalement de bloquer de façon durable cette situation.
C'est du moins un outil pour ralentir, quoi. Ce qui va nous permettre juridiquement de ralentir peut-être les choses. Parce que un des moyens du SAGE, c'est de renforcer la mutualisation des instruments de suivi des eaux de surface et souterraines. Donc on est tout à fait dans ce qui nous concerne. Et en fait, le SAGE Ardèche, qu'on appelle Ardèche mais qui déborde sur le Gard et sur le Vaucluse, donc il doit être compatible avec ce qui s'appelle le SDAGE, c'est-à-dire que c'est le cran au-dessus de Rhône-Alpes Méditerranée Corse. En fait, il y a un ensemble en fait qui reprend tout le sud-est de la France, qui prend tout le sud-est de la France, et à l'intérieur de cet ensemble, il y a tous les bassins versants qui vont en fait se jeter dans le Rhône.
Oui, quoi. Avec les lignes de partage aussi.
Voilà.
De partage après des.
Avec les lignes de partage des eaux.
Des eaux. Voilà,
donc ce SAGE Ardèche en fait qui va plus loin que l'Ardèche, mais on l'a compris. Il regroupe donc il concerne tout le bassin versant de l'Ardèche. Il concerne 158 communes, donc sur 3 départements, le 07, le 30 et le 48. Et l'élaboration du SAGE, je l'ai engagée depuis 2003. Donc c'est des choses qui prennent leur temps.
C'est un zonage finalement dans lequel on va définir les zones, par exemple les constructibles, les zones. Oui, mais quand on aura fait ces bassins versants, est-ce qu'il y a, puisque ça s'impose finalement peut-être au PLU des communes, est-ce que ça va imposer aux communes des zones à ne pas urbaniser, à ne pas développer, à ne pas exploiter, par exemple?
Ça va permettre en fait de créer des zones de protection des eaux souterraines.
Protection, en fait, voilà. Comme existe autour des captages.
Voilà. Alors, donc, aujourd'hui, là, on en est à l'enquête publique, en fait, pour l'approbation définitive qui est prévue pour 2012. Donc, ça approche, puisqu'il aura fallu un peu plus de 10 ans, en fait, pour mettre en place ce SAGE. Et en fait, tous les citoyens peuvent se rendre donc dans leur mairie. En fait, c'est pas dans toutes les mairies, hein, c'est regroupé par canton. On a par exemple sur le canton de Bourg-Saint-Andéol une réunion le 16 janvier au matin. On en a une sur Aubenas le 30 janvier de 14h à 17h. On en a une à Vallon-Pont-d'Arc le 23 janvier de 14h à 17h. À Villeneuve-de-Berg le 23 janvier de 9h à 12h. À Pont-Saint-Esprit le 12 janvier de 9h à 12h. Donc, il y a toute une série de réunions. En fait, on pourra trouver toutes ces dates. Il y a beaucoup d'autres communes, mais je vais vous passer la liste complète. Je vais vous l'éviter. Mais on peut la trouver sur le site du collectif 07 Gaz de Schiste. Et en fait, dans toutes ces communes, donc on peut aller...
Déposer
sur l'enquête publique.
Il y a un commissaire enquêteur.
Voilà, il y a un commissaire enquêteur. Mm-hmm. Et donc, on peut évidemment parler dans ces... poser des questions. question sur le gaz de schiste, mais aussi sur des tas d'autres choses, quoi. Mais donc on invite en fait tout le monde à massivement aller s'interroger à ce sujet-là, quoi.
En plus, c'est une évidence, hein. On a bien vu l'incohérence qu'il y a entre l'exploitation de ces gisements en grande profondeur et puis la protection des différents niveaux aquifères qui existent, que ce soit des nappes profondes ou des nappes, voilà, de surface, hein, qui alimentent la population en eau et qui alimentent les cours d'eau également.
Voilà. En plus, pour une fois qu'on nous demande notre avis, il faut en profiter, aller le donner, quoi.
C'est vrai ça tombe très bien, finalement.
Ah oui, ça tombe très bien, ça tombe très bien. En plus, c'est gratuit, on peut y aller en tant qu'individu, en tant que représentant d'une organisation, en tant que représentant d'un collectif, tout le monde peut participer à cette enquête publique, et donc on invite vraiment le plus grand nombre à s'y rendre, quoi.
Donc après, voilà, finalement, ce commissaire enquêteur va remettre son rapport au préfet, je pense.
Le commissaire enquêteur va remettre son rapport au préfet, au préfet de région même peut-être.
D'accord. Enfin, préfet de région,
j'ai des petits doutes là-dessus.
Oui, préfet, c'est possible, voilà, parce que c'est quand même un niveau au-dessus, voilà.
Voilà, c'est au niveau au-dessus, et ensuite donc. Début 2012, théoriquement, on aura le
rapport,
résultat.
D'accord. Voilà. Parce que finalement, c'est consultatif.
C'est consultatif.
Voilà. Mais bon, il faut quand même profiter.
Il faut en profiter parce que plus le
nombre de personnes.
Toutes les enquêtes publiques, en fait, une enquête publique peut faire basculer un projet, quoi, en fait.
Et ça commence donc maintenant.
Ça a commencé déjà. Voilà. D'accord. Ça a commencé. Ouais. Il y a déjà eu une série de réunions fin décembre, en fait. Et la deuxième réunion surtout mois de janvier, deuxième série.
Entre nous, encore un très mauvais timing, hein, juste avant les élections.
Voilà.
Ça. Bon, on va.
Mais ça, bon, c'est une enquête qui aura mis 11 ans à se dérouler. Donc, je pense qu'ils n'ont pas choisi les dates, là.
Ça arrive comme ça.
Très long, qui arrive comme ça. Bon, peut-être qu'elle a été un peu accélérée avant pour faire bien.
Mais en même temps, c'est vrai que c'est là qu'on va voir, qu'on va le problème de la cohérence, hein, c'est-à-dire dans les protections des eaux. Donc, ça nous amène au deuxième point, finalement, qui est. Un peu le travail du collectif, hein, avec la coordination nationale qui se réunit le 14 et le 15 janvier à Paris. Alors expliquez-nous rapidement cette coordination nationale. Qui est-ce qu'elle regroupe ?
Alors la coordination nationale regroupe donc l'ensemble des collectifs départementaux ou régionaux ou locaux. Certains départements sont pas encore très organisés, donc dans ce cas-là ils envoient les collectifs locaux. Donc il pourrait y avoir une centaine ou entre 100 et 150 de représentants. En général, comme ça se passe une fois sur deux dans le nord, une fois sur deux dans le sud de la France, quand nous y rendons, nous ne sommes pas indemnisés. Donc, ça limite quand même le nombre de participants, quoi. Là, la prochaine, donc, se déroule à Paris. Donc, on sera, je pense qu'il y aura une trentaine de collectifs représentés, quoi.
Et donc, c'est très productif parce que vous échangez déjà, vos expériences et vous êtes très structuré à l'actuel, vous êtes très organisé avec des commissions, différentes aussi.
Plutôt très bien organisé. Ces réunions se déroulent sur deux jours. En fait, là, à titre d'indication, le samedi après-midi, il y aura un tour de table sur les mobilisations locales, il y aura un point sur les actions juridiques en cours, donc sur les permis non abrogés, sur les permis abrogés qui risquent de revenir, on parle de Total, des précisions sur ce qu'est le conventionnel et le non conventionnel, parce que là le flou devient de plus en plus grand, on en a déjà parlé. On prépare donc les actions à venir dans ces réunions de coordination nationale. On s'occupe de l'organisation de la coordination. En fait, depuis la dernière réunion qui s'était passée, elle en Ardèche, à Jaugeac, on a commencé à des travaux de structuration de cette coordination. Parce qu'en fait, cette coordination, elle est apparue un peu naturellement, comme ça les gens se sont réunis, et donc maintenant on pense qu'il faut la structurer un peu pour avancer mieux. Donc ces travaux de structuration ont commencé à Jaugeac il y a deux mois et ils vont se poursuivre ici, et puis ça sera là aussi le top départ du site internet national, quoi, qui va permettre de fédérer.
Parce qu'au bout du compte, loin de s'épuiser, ce mouvement continue, se structure, on va dire se professionnalise, mais devient beaucoup plus performant et plus permet de donner une plus grande viabilité dans le temps, j'imagine.
Voilà, c'est ça. Et en fait, on a par exemple des exemples comme dans le Var, en fait, sur le permis de Brignoles, où on avait il y a trois mois quasiment personne, quoi, en fait, pas de représentants de collectif. Et en deux mois, en fait, il s'est créé une centaine de collectifs locaux. dans cette région-là.
Donc les gens sont motivés et se sentent plus encadrés.
Et en plus, le fait qu'il y ait cette coordination nationale qui permette aux gens qui démarrent d'avoir des repères, de demander des renseignements, de
s'organiser. D'avoir des référents, comme on dit.
D'avoir des référents, ça leur donne confiance et c'est pour eux un moteur, quoi, en fait.
Puis bon, ça a l'air très démocratique, ça, parce que finalement, il n'y a pas d'élection, mais il y a finalement chacun, chacun propose son délégué. Il y a plusieurs délégués par.
Plusieurs délégués par
collectif. C'est pas lié à.
Il y a plusieurs délégués par collectif. Tout ça se fait en bonne entente. Personne ne profite, n'essaye de. Il n'y a pas de mainmise, il n'y a pas de.
Alors,
tout se passe bien.
Pendant que le collectif se réunit donc à Paris, y en a d'autres qui se réunissent également en colloque sur le bouquet énergétique. Alors c'est une sorte de colloque qui est finalement, on se demande si c'est pas un peu du lobbying. Alors on parle nous de ce colloque qui est à Paris également.
Alors c'est à Paris, donc c'est le lendemain en fait.
Le lendemain, le 16.
Coordination nationale. Le 17.
Le 17, d'accord.
C'est le 15 et le 16 la coordination. Donc le 17 janvier, il y a le club Énergie et Développement, c'est un beau nom, qui organise son 9e colloque. Donc le président de ce colloque, c'est François-Michel Gonneau, qu'on connaît bien, qui est député de l'Oise, en fait, qui était un des deux rapporteurs pour la proposition de loi
interdisant
le forage.
Alors, il faut préciser que lui, il a fait ce qu'il fallait pour qu'il reste la notion de recherche.
Voilà.
Et c'est un peu la porte ouverte dans cette addiction, quoi.
Il se faisait passer pour quelqu'un de bien en disant non, on est contre l'exploitation, mais par contre, on va autoriser la recherche.
Pour la science.
On va pas répéter pour la dixième fois que dès qu'on fait de la recherche, on a un permis qui se renouvelle et qu'on peut forer et qu'on peut vendre les produits de la recherche. Alors, ce qu'il y a de bien, donc, ce colloque se tient sous le haut patronage de Günther Oettering, qui est membre de la Commission européenne chargée de l'énergie, de François Fillon, Premier ministre, et d'Éric Besson, ministre chargé de l'industrie et de l'énergie. Et en présence de Nathalie Kosciusko-Morizet.
D'accord. Qui va conclure le colloque. Quels sont les partenaires, justement, on peut parler des partenaires? Alors, on peut parler du détail aussi.
On peut parler des partenaires avant de. Les partenaires, c'est intéressant, quoi. Bon, il y a Areva, EDF, RDF. Il y a Vermillon, qui est donc un des gros foreurs qui a ses permis en Île-de-France. Il y a des gens comme Toreador Énergie, il y a Total, Total qu'on connaît bien ici chez nous. Il y a GDF Suez, donc il y a vraiment tous les foreurs qui sont présents, quoi.
D'ailleurs, de façon claire, il y a un sous-titre à ce colloque qu'on peut donner.
Alors, ce colloque, donc, il se déroule donc en plusieurs tables rondes, en fait. Donc, il y a une table ronde sur la France peut-elle se passer d'une technologie nucléaire, la France peut-elle se passer d'une ambition de l'efficacité énergétique. Il y en a un qui nous intéresse beaucoup, c'est la table ronde numéro 3, se déroulera à 11h45. La France peut-elle se passer d'une ressource. 2 points, les hydrocarbures de schiste.
Ah oui, c'est où,
va. Alors là, il y a 3 points qui seront abordés dans le programme, ce qu'on nous donne. Donc, 1, la situation aux États-Unis. 2, les différents modèles européens. 3, l'interdiction française. 2 points, comment en sortir? C'est clair, au moins, quoi.
Et comment sortir de la loi, finalement?
Voilà, c'est ça. Alors, les intervenants.
De l'exception pas culturelle.
française,
c'est ça, voilà.
Et donc, les intervenants, il y a Philippe Gégère, qui est sous-directeur de la sécurité d'approvisionnement. Donc, voilà, qui est directeur général de l'énergie et du climat. Il y a Bruno Gourme, ensuite, qui est directeur de Total Shale Gas Europe. Il y a Marc Karstoff, qui est président de S Oil France. Emmanuel Mousset, directeur général de Toreador, qui est donc le foreur qui a les permis en région parisienne, en Île-de-France. Et Peter Sider, vice-président des opérations en Europe de Vermillon Européen, qui aussi. Donc, il n'y a pas de contradiction.
Oui, c'est ça. C'est pas un débat,
c'est que des foreurs.
Ouais, donc c'est une forme de lobbying, c'est ça. Voilà.
Je pense qu'ils vont réussir à s'entendre, en fait.
C'est étonnant parce que finalement, c'est pas très, pas genre, démocratique, mais c'est pas très. Très fair play. C'est vrai que s'il y a un débat sur les gaz de schiste à ce niveau-là, un colloque, on parlait justement du virage un peu de l'association, de proposer des choix énergétiques qui permettent de ne pas être toujours dans la négation. Là, finalement, c'est nucléaire et gaz de schiste.
Voilà, nucléaire et gaz de schiste. Alors, si, il y a quand même des tables rondes. Il y a une table ronde qui parle du top départ pour le renouvellement des concessions hydrauliques. Il y a des tables rondes sur les énergies renouvelables aussi. Voilà. Mais il y a celle-ci qui est quand même. Gratiné. Et celle-ci, en fait, en conclusion de celle-ci, La personne qui prendra la parole, c'est Nathalie Kosciusko-Morizet, donc la ministre de l'écologie. Donc elle sera servie, quoi. Enfin, ouais.
Voilà. Alors c'est marrant, c'est que finalement le titre est sans équivoque, quoi, c'est ça. Comment sortir.
Le titre est sans équivoque, voilà. Ouais, ça, c'est et vrai. Après, en fait, François-Michel Gounod, donc qui préside cette manifestation, donc nous dit dans un éditorial sur le programme de cette manifestation, donc tous les grands industriels du secteur, les parlementaires compétents et responsables de l'administration seront là. Ce 9e colloque, Club Énergie et Développement, organisé en collaboration avec blablabla, sera à n'en pas douter l'événement du début de l'année 2012. D'accord. On n'en doute pas.
Oui, ce club, c'est vraiment un club de lobbying. Alors, voilà. Justement, comme vous n'êtes sûrement pas invité en tant que collectif à ce colloque, donc vous avez décidé de faire un contre-colloque.
Voilà, oui. Avant, ce qu'il y a, c'est qu'on a, quand même quelques maires, on a des gens qui s'inscrivent, qui vont être présents, mais qui n'auront pas la parole, je pense. Après, ou qui pourront poser des questions, qui pourront, mais je pense qu'ils ne pourront pas renverser les conclusions de ce colloque.
Ce serait intéressant de voir après si on a un retour média de ce colloque et de quelle façon.
Je pense qu'on en aura un, parce qu'ils ont quand même les moyens de ils ont le moyen de se le payer, même.
Alors
si on ne vient pas
les chercher. Comme vous n'êtes finalement pas invité à parler ni à communiquer, vous avez décidé de faire un contre-colloque, justement.
Ouais.
Alors,
un contre-colloque, donc le 17, en fait. Donc, on va...
sur place, ça
tombe bien. On sera sur place la veille, donc c'est parfait. Donc, on aura nous beaucoup discuté, on sera tous d'accord.
Encore un joli timing.
On commence à bien s'organiser quand même.
Non, mais je parle du gouvernement, parce que c'est vrai qu'il vous propose, vous êtes sur place, c'est pas à revenir. Quoi.
Non, mais en fait, on a décidé de la date de notre coordination nationale en fonction de ça. Oui, parce que c'est pas eux qui sont alignés sur nous. Mais donc, on va à partir de ça va démarrer entre 11h30 et 12h30, donc organiser une grande mobilisation citoyenne. Donc, à l'intérieur de ce contre-colloque, quoi, il va y avoir une conférence de presse, donc qui va nous permettre de donner nos points de vue et qui seront pas ceux évidemment du colloque officiel. On a ensuite pendant le contre-colloque avec les collectifs organisés par le collectif Île-de-France, en fait, on va travailler à proposer d'autres choses,
d'autres
pistes. Et on va, il y aura plusieurs interventions. En fait, il y en aura une sur l'avenir des énergies fossiles et des hydrocarbures, donc qui est vraiment le cœur du sujet. On va passer en revue les accidents et les problèmes majeurs qui existent aux États-Unis, au Canada ou en Angleterre.
Oui, il y a retour d'expérience là.
On a appris aujourd'hui qu'il y avait un puits en Pennsylvanie, en fait, où en fait, qui a donné lieu à des contaminations, qui va être fermé, abandonné, etc., bétonné et tout.
Donc, il y a une reconnaissance du problème,
Il y a un puits, il y a 5000 puits dans cet état. Oui. Donc, un puits sur 5000, je pense que c'est un peu pour
donc
se faire.
Donc, vous avez essayé finalement d'amener la contradiction également par médias interposés au sein de ce colloque.
On va parler de l'impact du réchauffement climatique, de la climatologie. On va faire un état des lieux juridiques en France, les permis abrogés, en fait, et entre autres des permis maintenus et des recours en cours, donc du recours de Total sur son permis, sur le permis qui nous concerne nous directement ici. On va parler, donc il y aura évidemment beaucoup d'élus, donc qui vont nous donner leur point de vue, qui vont nous dire comment ils font, qu'est-ce qu'ils prennent comme décision pour essayer d'empêcher ça. On va faire aussi un état des lieux en Europe, parce qu'on commence à avoir entre autres en Pologne, en fait, où en Pologne, où on commençait à vraiment creuser et à exploiter sans qu'il y ait vraiment d'opposition surtout. Maintenant que les premiers problèmes de contamination sont survenus, il commence à y avoir une vraie mobilisation en Pologne.
Il a fallu l'accident, quoi.
Et il a fallu les premiers accidents. Et on commence à en parler. Donc on va faire un point là-dessus. On va donc logiquement faire un point sur la dimension internationale des luttes, quoi, en fait, parce qu'il y a entre autres un partenariat, un collectif qui est en train de se monter entre la France et le Canada. Donc on va faire le point de tout ça et puis on va en arriver à la conclusion, quoi. Est-ce que la France peut ou doit se passer des hydrocarbures de schiste, quoi? Et puis évidemment déborder sur les énergies renouvelables comment faire et dans quelle direction
aller. Parce qu'avec on revient à l'énergie fossile qui est aussi nucléaire, hein, on n'oublie pas
ça.
Les problèmes d'Areva à l'heure actuelle et le problème d'EDF aussi avec le rapport de l'ASN, hein, EDF estime à plus de 10 milliards en plus des sommes provisionnées les travaux réalisés. Voilà.
Exactement.
Donc, par exemple, il faut refaire une dalle de plus de 5 mètres d'épaisseur sous Fessenheim. Je pense que les Japonais, ils ne sont pas encore arrivés. Donc il y a des travaux gigantesques qui posent un vrai problème.
Qui posent un vrai problème.
Ouais, tout à fait.
Et donc à la fin de ce contre-colloque, donc on donnera la parole à tous les collectifs, ils auront un temps de parole assez court, parce que pour que tout le monde puisse parler. Et en même temps, ce à quoi on tient, tous les organisateurs, en fait, c'est comme on est en période électorale, on souhaite pas la présence de politique. Parce qu'en période électorale, on sait ce que vaut une parole politique dans ces périodes-là, quoi.
On s'était posé un peu la question aux dernières élections. C'est vrai c'est passé, mais c'est vrai que maintenant les enjeux sont très importants.
Exactement.
Et en plus, il risque d'avoir des législatives juste derrière les présidentielles.
Voilà. Donc, on va pas.
Donc, effectivement, il faut être prudent.
Il faut être très prudent parce que, après, les promesses qui peuvent être faites dans ces moments-là sont souvent dangereuses parce que les gens vont nous promettre tout ce qu'on va vouloir. Puis on ne veut pas non plus les mettre en porte-à-faux, quoi. Donc c'est pour rester très copain.
D'ailleurs, il y a le grand rendez-vous va être après les élections, parce que finalement, il n'y aura pas d'élection immédiate, à part où on est à l'élection municipale, mais qui ont moins d'enjeux maintenant avec les communes. Mais il y a beaucoup de promesses et d'engagements qui peuvent être oubliés, et l'élection suivante est dans 5 ans. Quoi.
Voilà. Ouais, exactement.
Donc ça, il va falloir un retour.
Donc c'est pour ça qu'on va être très prudent à ce niveau-là, pour ce contre-colloque. Les maires des communes qui font partie du collectif des maires seront évidemment les bienvenus, mais on va pas aller au-delà, quoi.
Voilà. Et donc, vous nous ferez le bilan de tout ça, puisque c'est le 15 janvier, donc dans la fois suivante, on fera le bilan de tout ça.
Exactement. Voilà. Et ça risque d'être passionnant.
Merci, Paul Reynard.
Merci, Thierry.